Une semaine d'actualité.
Bonjour, en ce premier jour du mois d'août, l'été à Paris, l'hiver beaucoup plus bas sur la planète.
Daniel Grillon.
Nous regardons ensemble, chers auditeurs des RFI, le monde avancer avec son cortège de joie, de drames, d'espoir et de désespoir, de sourires aussi. Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
Rédacteur en chef de la revue Alternative Internationale. Nous allons ensemble analyser ce qui arrive aux Kurdes sous les raids des avions de chasse turcs. Mais aussi Barack Obama, ce fils d'Africain venu parler au continent. Dans ce monde en marche, les mendiants sont désormais interdits au Tchad par crainte des attentats. Les migrants à Calais, devant le tunnel menant à l'Angleterre, ils perdent la vie en voulant trouver un destin. Le Mollah Omar l'a perdu, sa vie. Faire part de décès, publié 2 ans après sa mort. Les femmes en Arabie Saoudite peuvent enfin, diront beaucoup, voyager seules, sans être accompagnées de leur mari ou d'un tuteur. Enfin, Michel Platini, à la conquête de son Everest, le siège de patron du football mondial pour remplacer Sepp Blatter.
Sept jours dans le monde.
Et d'abord, malheureusement, encore, des cris de mort et ces appels à la vengeance. Entendus chez les Kurdes contre la Turquie, il y a peu, le monde les regardait en héros. Ils sauvaient les habitants de Kobané en Syrie des griffes assassines du groupe État islamique. Chaque jour désormais, ces Kurdes, même sur le territoire sud-est de la Turquie, sont pilonnés par les bombardements des avions d'armée turque. Ils se disent abandonnés. Issa Khaled, représentant en France du PYD, le principal parti kurde de Syrie, dit sa stupeur devant l'action d'Ankara au micro de Daniel Valo.
Pour soi-disant le combat contre Daesh, en réalité, ils mènent des opérations massives contre les Kurdes de la Turquie, en Irak et en Syrie. Même les bases de PKK qui ont été bombardées, les PKK, c'est une force très efficace contre Daesh sur le territoire irakien, notamment à Sinjar, à Kirkuk et dans d'autres localités. Les militants qui ont été arrêtés en Turquie, en majorité des militants kurdes et des jeunes socialistes. Et l'État turc aussi vise essentiellement l'expérience démocratique qui est établie à Rojava dans le réseau à majorité kurde. C'est pour cela que nous demandons aux grandes puissances de empêcher la Turquie de continuer dans cette politique aventurière qui peut déstabiliser la région et mettre la paix en danger.
La paix en danger. Le chercheur Jean-François Pérouse de l'Institut d'études anatoliennes d'Istanbul ne voit pas autre chose au téléphone de Béatrice Leveillé.
Ce que je redoute, c'est que l'opposition kurde qui a accepté de jouer le jeu démocratique ne rebascule pour partie sur l'action armée. Hein. Donc c'est ça, c'est le processus de paix auquel bon, la KPR a eu participé. Il faut lui reconnaître ce mérite qui est maintenant en danger sérieusement. Et on peut craindre par ailleurs dans d'autres factions une radicalisation, puisque le mode d'action qui a été utilisé est très radical.
Yann Mince, le président Erdogan, soutenu dans ses raids aériens contre les Kurdes par l'OTAN, joue avec le feu ?
Oui, il joue avec le feu, bien sûr, puisque il y a deux ennemis dans cette affaire. L'un qui est l'État islamique, l'autre qui est le PKK. Deux ennemis pour Erdogan. Je pense qu'il y a une grande différence de perception entre les pays occidentaux et la Turquie, en tout cas Erdogan, quant à la menace. C'est-à-dire que pour la Turquie, pour Erdogan, le PKK, c'est un adversaire ancien et un adversaire durable. J'ai le sentiment que pour Erdogan, l'État islamique, c'est quelque chose de passager. Donc pour lui, la priorité, ça sera toujours, et on le voit dans les bombardements de ces jours-ci, ce sera toujours le PKK. Donc il y a un but de long terme, et j'ai l'impression que pour lui l'État islamique c'est un mauvais moment à passer, mais que ça finira par se réduire. Par ailleurs, pendant très longtemps, l'État islamique ne frappait pas en Turquie. C'est à partir du moment où il y a eu l'attentat de Suruç contre des jeunes Kurdes, d'ailleurs, mais sur le sol turc, que Erdogan a commencé à frapper plus décidément l'État islamique. Et par ailleurs, je pense que Erdogan a aussi des buts de politique intérieure turque. Il y a eu des élections en Turquie le 7 juin. Le parti d'Erdogan, l'AKP, qui est au pouvoir depuis 2002, n'a pas obtenu la majorité qu'il espérait. Or, Erdogan a un but. Il veut modifier la constitution, maintenant qu'il est président, non plus premier ministre, pour avoir une constitution avec un pouvoir présidentiel fort. Pour ça, il lui faut une majorité forte. Il ne l'a pas. Les partis turcs sont censés pouvoir essayer de former un gouvernement d'ici au 24 août, je crois. Et sinon, il y aura des élections. Et je pense qu'une partie de l'action d'Erdogan aujourd'hui s'explique par sa volonté de gagner ces élections. Je ne serais pas surpris que le parti kurde légal, le DHP, PSP soit interdit alors qu'il a fait un bon score aux élections, en tout cas soit empêché de participer au scrutin. Et du coup, effectivement, Erdogan joue le nationalisme turc contre les Kurdes pour essayer de rallier son électorat.
Alors son opposition a un visage, c'est la latine Demirtas, pro-kurde, chef du HDP, le principal opposant donc au président Erdogan, c'est lui. Erdogan d'ailleurs le traite parfois d'infidèle, de beau gosse, de pop star, c'est au choix. Hein. Là aussi, c'est donc pour vous l'objectif central.
Alors, je suis pas d'accord sur le fait que le leader de l'opposition soit le leader du DHP. Il y a deux grosses autres partis dans l'opposition, plus important encore peut-être que le DHP, en tout cas pour l'un, c'est le CHP, qui est un parti de gauche kémaliste ancienne, on va dire, le vieil establishment kémaliste, et un autre parti, moins connu en France, qui est le MHP, qui est un parti nationaliste de droite très anti-kurde. Donc effectivement, la partie visible, celle que nous voyons, nous, ici, depuis la France, de l'opposition en Turquie aujourd'hui, c'est le DHP, parce que c'est le nouveau venu sur la scène politique, c'est le parti kurde, et qu'il a un électorat kurde, mais en plus, semble-t-il, une partie des Turcs de gauche, disons, non kémalistes, ou en tout cas pas kémalistes vieille garde, ont voté pour lui aux élections. Mais, en fait, les poids lourds de l'opposition, c'est pas le DHP, c'est le CHP et le MHP. Et le jeu de Erdogan, effectivement, c'est de montrer qu'en ce moment, il n'y a pas moyen de faire une majorité parlementaire. Il essaye, avec l'un des deux partis dont je parlais, le CHP, de faire une majorité. Les pour parler son long, je soupçonne qu'il n'y arrivera pas et que pour ça, il convoquera des élections. Mais il ne faut pas réduire, je crois, l'opposition turque au parti kurde. C'est une partie de l'opposition, mais ce n'est pas la plus importante.
Bien sûr, quand je disais principal, c'était en tout cas sa principale préoccupation du moment.
Certainement.
Les attentats kurdes, voilà ce que disait cette semaine sur RFI, l'ambassadeur de Turquie en France. Les attentats kurdes contre les forces de l'ordre turques ont démarré avant les bombardements turcs, 16 policiers ou militaires tués depuis le 11 juillet, rappelle-t-il. Les Kurdes, terroristes, ça existe.
Bien entendu, c'est-à-dire le PKK, d'abord, le PKK, il faut rappeler que c'est un parti qui a pratiqué pendant de très longues années la lutte armée. Ensuite, c'est un parti, il faut le dire, je sais que les militants du PKK et un certain nombre de sympathisants de la cause kurde n'aiment pas ça, mais c'est un parti profondément stalinien dans son fonctionnement, avec un culte de la personnalité autour de Öcalan, le leader emprisonné. Et par ailleurs, c'est un parti qui est un mouvement armé, qui est dans une longue tentative de négociation et qui ne veut pas lâcher l'une de ses cartes, qui est sa capacité de mener d'action armée. L'un des préalables pour la négociation entre Ankara et le PKK, du côté turc, c'est que il y a un retrait complet des combattants du PKK de Turquie, et qu'ils cessent la lutte armée complètement. Mais évidemment, le PKK ne veut pas concéder ça. Je pense que le PKK a fait une erreur après l'attentat de Suruç, c'était de tuer deux policiers turcs. C'était, à mon sens, donner une ouverture à Erdogan.
Une semaine d'actualité.
Dans les ciels en guerre de la planète, des armes de plus en plus sophistiquées chassent l'ennemi. Sur plusieurs théâtres d'opération, des drones, pilotés par des pilotes assis dans un fauteuil, quelque part en Amérique par exemple. Mais cela pourrait aller plus loin, dénoncent 1000 personnalités, notamment Steve Wozniak, cofondateur d'Apple. Alors, dans un appel, toutes ces personnalités disent non aux robots tueurs qui pourraient bien être autonomes dans un futur proche. L'ordinateur décidant tout seul sera un danger, détaille Rajesh Attila, l'un des signataires. Simon Rosé l'a joint dans son bureau de l'Institut de robotique intelligente de l'Université Pierre et Marie Curie.
Il y a des systèmes semi-autonomes. Par exemple, on peut parler de deux systèmes d'armes qui existent aujourd'hui, qui sont semi-autonomes une fois qu'on les a lancés. Le dôme de fer israélien, c'est-à-dire un système de missiles anti-missiles. Le système d'armes Patriot en est un autre exemple. À ce moment-là, pour chaque cible individuelle, l'autorisation de faire feu n'est pas donnée par un être humain. Ça n'empêche pas ces systèmes de se tromper, hein. Notez bien. Ils ont un certain nombre de critères sur la base des signaux radar pour déterminer qu'un engin est en train de les attaquer et réagir. S'ils se trompent, ils peuvent tirer sur un engin qui n'est pas en train de les attaquer. Donc les systèmes autonomes dont on parle aujourd'hui, c'est un peu une évolution de tout ça. Personnellement, je ne pense pas que c'est pour bientôt que des systèmes vraiment autonomes seront capables d'être opérationnels. Et c'est bien là, justement, d'une certaine façon, le danger, c'est qu'on puisse faire des systèmes qui manquent complètement de discernement et qui peuvent être utilisés pour tirer sur tout et n'importe quoi, sous prétexte qu'ils sont soi-disant autonomes ou intelligents.
Ordinateur, machine de guerre, peut-être un jour autonome. Retournons 86 ans en arrière. Un bébé né en Pologne. Il s'appelle Samuel. Samuel Pizar. Il va devenir célèbre pour avoir miraculeusement échappé à une terrible machine de guerre humaine, si j'ose dire, le nazisme. Samuel Pizar ou le destin hors norme d'un des plus jeunes rescapés des camps de la mort. Sébastien Gédor.
Le tout début de ma vie a été extrêmement heureux, se souvenait Samuel Pizard. Né à Bialystok, en Pologne, dans une famille aisée, son destin bascule à 12 ans avec l'invasion nazie. Samuel Pizard est déporté dans le camp de travail de Majdanek. Ensuite, ce sera Auschwitz et Dachau. Sa mère le sauve en lui faisant porter des vêtements, des haillons, trop grands pour lui. Samuel Pizard fait plus que son âge, il échappe aux chambres à gaz. Tous ses proches, tous ses camarades d'école seront exterminés. À la libération, il a 16 ans, il erre dans les décombres de l'Allemagne avant de gagner Paris, puis l'Australie. Après des études à Harvard, il est repéré par un certain John Fitzgerald Kennedy, dont il devient le conseiller pour le commerce Est-Ouest. Il fonde une doctrine, le pizarrisme, selon laquelle les échanges entre les deux blocs permettent d'éviter que la guerre froide ne dégénère. Bouleversé par l'assassinat de JFK en 1963, il se retire en Californie. Le cinéma est en train de devenir une industrie. Il sera l'avocat d'Elizabeth Taylor, parmi des dizaines d'autres. Ces dernières années, Samuel Pizard ne cessait de mettre en garde les jeunes du monde entier contre la résurgence du fanatisme nationaliste, raciste ou religieux.
Samuel Pizard, mort cette semaine à 86 ans. À 86 ans, cet homme dénonçait, jusqu'à la fin de sa vie, le fanatisme nationaliste, raciste ou religieux.
Je crois que dans un certain cas, on peut même dire « et religieux », parce que malheureusement, le cocktail fonctionne souvent à plusieurs paramètres.
On a l'impression que rien ne change, tout son de sa vie. Il a commencé comme ça et...
Hein. Oui, enfin, en même temps, l'histoire se répète pas absolument. Le dosage du cocktail change, hélas, ou pas hélas, mais enfin, change en tout cas. D'un moment à l'autre, peut-être, effectivement, que depuis le début de sa vie, ce que peut-être Samuel Pizard a vu monter en puissance, parce que c'était, dans les années où il était jeune, je pense, pas prévu, pas anticipé, c'est effectivement le cocktail religieux nationaliste ou religieux raciste qui, lui, effectivement, fait un grand retour.
Le mot « taliban » résonne dans cette galaxie du fanatisme religieux. Le borgne le plus célèbre du monde, le Mollah Omar, chef des talibans, il avait perdu un œil en combattant les soviétiques alors en Afghanistan. Il y a 15 jours encore, il écrivait pour soutenir des discussions de paix avec les autorités de Kaboul. Problème, le Mollah Omar est mort depuis avril 2013 au Pakistan. Il était plus utile vivant aux talibans. Alors, ils ont fait comme si. Son successeur vient d'être désigné, Christophe Pagé.
Le Mollah Akhtar Mansour était jusqu'ici l'adjoint du Mollah Omar. Ce choix pourrait déplaire à certains commandants qui lui préféraient le fils du Mollah Omar, Mohamed Yacoub. Akhtar Mansour pencherait plutôt du côté des négociations de paix avec le gouvernement afghan, qualifié d'ailleurs de légitime par le Mollah Omar dans un message il y a 15 jours. Ce qui n'est pas surprenant quand on sait que le chef taliban était mort depuis longtemps lorsque ce message a été envoyé en son nom, et qu'en fait c'est Akhtar Mansour qui dirigeait de facto les talibans depuis 2 ans. Sur le terrain, les rebelles qui demandaient des preuves de vie du Mollah ne devrait pas apprécier qu'on leur ait menti. De quoi alimenter les départs vers les rangs de l'organisation État islamique, qui recrute aujourd'hui chez les talibans et qui est, elle, opposée à toute discussion. La seconde session de pourparlers taliban-gouvernement afghan devait commencer ce vendredi au Pakistan. Elle a été reportée. Islamabad explique que c'est à la demande des talibans qui aurait évoqué l'incertitude soulevée par la mort du Mollah Omar. Dans un communiqué, les talibans affirment eux ne pas être au courant de l'existence de ce processus. Ils semblent donc déjà s'en distancier. En tout cas, si ces pourparlers de paix reprennent, leur valeur dépendra surtout de l'autorité qu'aura sur ses troupes le nouveau chef des talibans.
Yann Mince, le risque de voir basculer massivement des talibans les plus durs vers le groupe État islamique.
Il y a déjà une implantation de l'État islamique en Afghanistan, puisque Abu Bakr al-Baghdadi, le présumé calife de l'État islamique, autodéclaré calife, a créé une province du Khorasan, donc qui est le nom de la province afghane de l'État islamique. Il y a déjà depuis plusieurs mois des tensions avec des défections. Des défections dans les deux sens, parce qu'il y a effectivement un chef taliban qui avait fait défection, qui a voulu revenir vers les talibans et qui a été décapité par l'État islamique. Ce qui veut dire que il y a quand même une ambiance assez tendue. Ce qui est intéressant, c'est que la nomination du successeur de Mollah Omar s'est accompagnée visiblement, parce qu'il faut faire attention avec les proclamations et les messages, d'un adjoint. Un adjoint qui est le fils de Jalaluddin Haqqani. Haqqani, c'est un des réseaux, on va dire, au sein des talibans les plus puissants, les plus importants, les mieux organisés, et très proche d'Al-Qaïda. Ce qui veut dire qu'effectivement la nouvelle direction, si elle se confirme, des talibans, resterait proche d'Al-Qaïda et donc n'irait pas du côté d'État islamique, avec effectivement le risque que les mécontents basculent de l'autre côté, que ceux qui ne veulent pas de négociation avec Kaboul, avec le nouveau président Ashraf Ghani, basculent du côté de l'État islamique. Mais on peut aussi avoir un jeu à trois, c'est-à-dire qu'on ait des talibans durs, des talibans négociateurs, et puis l'État islamique de l'autre côté. C'est pas complètement exclu, parce qu'il n'est pas certain que les talibans, même dissidents, aient envie de se placé sous la coupe d'Abou Bakr al-Baghdadi et de l'État islamique, dont on sait qu'il peut être assez autoritaire et coercitif.
Une question supplémentaire sur cet Afghanistan. Est-ce que les talibans, de façon quasi sûre, reprendront pour vous le pouvoir ?
Je vois pas comment ils ne pourraient ne pas être associés au pouvoir. La question, c'est pas qu'ils reprennent le pouvoir seuls. Je pense qu'ils n'ont pas les moyens de le reprendre seuls. Longtemps, et quand je dis longtemps, je veux dire après 2001, après la chute des talibans par l'opération américaine, on a pensé qu'ils étaient finis. Et puis, à partir du milieu des années 2000, 2006, 2007, on les a vus revenir en force. Aujourd'hui, ils contrôlent une partie des provinces, notamment dans beaucoup de zones rurales. Ils ont fait récemment une offensive très importante dans le nord, qui a même forcé un seigneur de la guerre, comme on dit, ouzbek à revenir en catastrophe au pays pour essayer de les arrêter. Donc ils ont une vraie implantation. Je ne pense pas qu'ils aient les moyens de prendre le pouvoir militairement. En revanche, ça peut s'arranger à l'Afghan, c'est-à-dire qu'on peut avoir, maintenant que les troupes américaines ne sont plus là, maintenant qu'Al-Qaïda apparaît affaibli, au moins dans cette région-là, en tout cas en Afghanistan, on peut avoir une tentative de négociation avec, je dirais pas les talibans, mais peut-être des talibans associés au pouvoir.
Partons un peu plus loin. Le Mollah Omar aurait apprécié les femmes sont désormais autorisés à voyager seuls en Arabie Saoudite. Clarence Rodriguez.
La loi a récemment été promulguée sans tambour ni trompette, dans la plus grande discrétion, comme c'est d'ailleurs souvent le cas, lorsqu'il s'agit d'une décision cruciale qui pourrait bousculer les mentalités au sein de ce royaume conservateur. Plus besoin de chaperon mâle pour voyager, plus besoin non plus de papier jaune ou SMS pour avertir le mahram, le tuteur, père, mari, frère ou fils. Les agences de voyage se réjouissent car les Saoudiennes sont de plus en plus nombreuses à vouloir s'échapper pour goûter au plaisir nuancé de l'exotisme. Celles qui ont les moyens financiers de cette évasion légalisée préfèrent voyager dans des pays arabes, Dubaï, Égypte, Bahreïn. Elles expliquent que la culture est proche de la leur, cela les rassure. Elles voyagent certes sans tuteur, mais elles voyagent entre filles. Elles n'osent a priori pas encore se lâcher des deux mains, mais une chose est certaine, après l'autorisation de voter et être éligible aux prochaines élections municipales en décembre prochain, toutes ces femmes sont sur le tarmac, prêtes à prendre leur envol.
7 jours dans le monde.
Yann Mince, l'Arabie Saoudite avance le plus discrètement possible, mais avance dans cette...
C'est un mouvement qui avait été un petit peu lancé par le prédécesseur de l'actuel roi Salman, c'est-à-dire le roi Abdallah, qui avait sur ce plan-là, on ne peut pas dire que c'était un libéral, faut pas exagérer, un libéral, le roi saoudien, ça n'existe pas encore. Mais en tout cas, il était un peu plus avant-gardiste, disons, dans la limite de ce que les wahhabites peuvent être avant-gardistes. En tout cas, il progressait vers là. C'est un vrai progrès, la fin de ce système du tuteur ou du gardien, comme le disait Clarence Rodriguez. Il faut rappeler quand même que les femmes en Arabie Saoudite n'ont toujours pas le droit de conduire une voiture. Ça peut paraître absurde, et quand on compare la situation des femmes en Arabie Saoudite à celle de l'Iran, il vaut largement mieux être une femme iranienne du point de vue des droits qu'une femme saoudienne. Or, j'observe que des pays comme la France, qui sont la patrie des droits de l'homme, ont, surtout aujourd'hui, des relations extrêmement cordiales avec l'Arabie Saoudite et des relations tendues avec l'Iran. Donc je en déduis que c'est pas la situation des femmes, peut-être celle des hommes, mais pas la situation des femmes qui est un vecteur important de la diplomatie française.
Un dernier mot, en sus du permis de conduire, quelle prochaine étape sera l'idéal pour les femmes en Arabie Saoudite ?
Effectivement, d'avoir un droit de vote, pas seulement municipal, mais un droit de vote complet. Alors évidemment, les élections en Arabie Saoudite, on sait là aussi ce que c'est, mais au moins une égalité juridique totale, et éventuellement avec tout ce que ça veut dire en termes de droit d'héritage, par exemple, de droit de divorce, etc., de garde des enfants, tout un tas de droits. Je ne parle même pas de la question du voile, parce que ça, en Arabie Saoudite, ça me semble trop loin, mais au moins une égalité juridique pleine, oui.
Une semaine d'actualité se poursuit après les dernières informations. À tout de suite avec Yann Mince, rédacteur en chef d'Alternative Internationale. Retour en votre semaine d'actualité.
Daniel Grillon.
Avec, pour ouvrir cette deuxième partie, tournée vers l'Afrique, Ces paroles, venues du cœur, rares chez un président américain, Barack Obama.
C'est en tant qu'Américain, fier de l'être, que je me présente devant vous, et aussi en tant que fils d'un Africain.
En fils respectueux, Obama salue en Afrique un continent en mouvement et ajoute « Le monde doit respecter cela ». Joie des dirigeants de l'Union africaine, jamais un président américain n'était venu leur parler au siège de l'organisation. Joie, mais aussi regard soudainement grave quand Barack redevient Obama devant les chefs d'État africains. Autrement dit, le président de la plus grande démocratie du monde.
Les progrès de la démocratie en Afrique sont en danger lorsque les dirigeants refusent de partir à la fin de leur mandat. Je dois être honnête avec vous, je ne comprends pas cette attitude. Je suis dans mon second mandat, et cela a été un extraordinaire privilège pour moi de servir en tant que président des États-Unis. Mais notre Constitution dit que je ne peux concourir pour un troisième mandat. Lorsqu'un dirigeant essaye de changer les règles du jeu en cours de route pour rester au pouvoir, cela risque de créer de l'instabilité et des conflits, comme on l'a vu au Burundi. Et c'est souvent le premier pas vers la paralysie. Parfois, on entend un chef d'État qui dit « Je suis le seul à pouvoir empêcher cette nation d'éclater ». Si c'est vrai, cela signifie qu'il a échoué à construire une véritable nation.
Un fils d'Africain peut-il leur parler ainsi ? Nous allons y venir avec Yann Mince dans une seconde. Mais première réponse, depuis le Congo-Brazzaville de Jean-Didier Elongo, membre du comité central du parti au pouvoir, le PCT, joint par Boniface Vignon.
Le président Barack Obama, il est co-président des États-Unis, il n'est pas le président de l'Afrique. Chaque pays africain a sa spécificité. Être donneur de leçons, c'est bien, mais nous pensons que l'Afrique doit prendre son destin entre sa main. Et le Congo, notre pays, a cette chance d'avoir un homme d'exception et qui nous réunit autour du Mbongi, autour du dialogue pour régler les problèmes à l'africaine. Les États-Unis ont fait leur réalité. Nous sommes ravis d'avoir donné à la plus grande puissance un enfant, mais il reste un Américain. Donc, c'est bien qu'il pense à l'Afrique à la fin de son mandat, mais l'Afrique n'attend pas grand-chose de ses enfants qui sont nés à l'extérieur, qui connaissent pas forcément la réalité africaine.
Yann Mince, rédacteur en chef d'Alternative Internationale. Est-ce que l'Afrique peut supporter encore, même d'un mot, l'ingérence, même d'un Barack Obama venu en ami?
Alors c'est une ingérence verbale d'abord, hein. Je veux dire, Barack Obama a pas envoyé les troupes pour renverser le président de Nkurunziza au Burundi, il faut pas exagérer. D'ailleurs c'est pas son genre, c'est un président aussi peu interventionniste que possible, ce qui fait d'ailleurs le contraste avec le précédent qui lui aimait bien les interventions. Non, je crois que effectivement Obama a mis dans son discours le doigt sur une question qui est une question importante, c'est pas une question théorique, il a dit la démocratie ça n'est pas une caractéristique occidentale. Et il a parlé aussi des mauvaises tradition dont il fallait se débarrasser en Afrique. Et je suis très frappé d'entendre un responsable congolais dire qu'il faut régler les problèmes à l'africaine. Ça veut dire quoi, à l'africaine? En l'occurrence, ça veut dire que c'est le président Sassou qui décide de tout. Non, ça c'est pas une façon de régler des problèmes. C'est une façon de les étouffer, les problèmes. Donc effectivement, Barack Obama a raison de dire que pour l'instant, comme disait Churchill, la démocratie c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. C'est encore ce qu'on a trouvé de moins mal. Que ce soit né en Grèce, aux États-Unis, en France, on s'en fiche, c'est un produit qui s'exporte très bien, démocratie. Donc il n'y a pas de raison que l'Afrique refuse l'importation. Et d'ailleurs, beaucoup de pays africains le font, le Bénin, le Ghana et beaucoup d'autres aujourd'hui. Heureusement, de plus en plus de pays acceptent le jeu de la démocratie. C'est-à-dire, comme l'a dit d'ailleurs Obama, pas seulement les élections, mais aussi, il l'a souligné, les droits de la presse, les droits d'expression, les droits de manifestation, le droit pour la société civile, il a beaucoup insisté là-dessus, de s'organiser. La démocratie, c'est un package avec plein de choses dedans, dont les élections, des vraies élections libres, et une vraie possibilité d'alternance. Pour moi, l'alternance, c'est essentiel.
Je vais oser, parce que c'est Barack Obama, je vais oser poser une question qui traite notamment de la couleur de peau de Barack Obama. Est-ce que finalement, en ayant abordé le respect des droits de l'homme, le droit des femmes, le droit des homosexuels, est-ce que seul un président américain de couleur noire pouvait dire cela comme ça devant tous les chefs d'État africains ?
Alors, la question de la couleur noire, pour moi, c'est une vraie interrogation. Est-ce que Barack Obama est noir ? Et qu'est-ce que c'est qu'être noir ? Barack Obama, stricto sensu, c'est un métis. Sa mère est blanche, son père était noir. Qui est noir? À partir de quand est-ce qu'on est noir? À partir de quel degré d'obscurité de la peau on est noir? Je ne sais pas répondre à cette question-là. Barack Obama, c'est sûr, a dit, il a commencé par dire, je suis un Américain fier de, proud American, je suis Américain fier d'être, et je suis un fils de l'Afrique. Il n'a pas dit je suis noir, il a dit je suis un fils de l'Afrique. Donc effectivement, ça lui donne une relative légitimité, encore qu'il faut être clair, sa relation à l'Afrique pendant très très longtemps a été très distante. Il connaît plutôt mieux l'Asie où il a vécu que l'Afrique où il n'a jamais vécu.
Jour en Afrique.
Poursuivons notre périple sur le continent. Après la burqa, et pour les mêmes raisons antiterroristes, le Tchad interdit désormais la mendicité. Il y a peu, des kamikazes déguisés en mendiants se sont fait exploser au Cameroun. Madjassra Nako est au Tchad pour RFI, dans les rues de N'Djamena.
Ali Haroun, maire de N'Djamena, a convoqué les responsables des bars, des associations de non-voyants et handicapés pour leur expliquer que désormais, tous les bars doivent fermer à partir de 22h en semaine et 24h les week-ends et les jours de fête. Aussi a-t-il ajouté que toute activité de mendicité est formellement interdite dans la capitale à partir de ce mercredi. Les parents des non-voyants et handicapés, catégorie pratiquant en majorité cette activité, sont priés de les retenir à la maison. Ces mesures qui visent à réduire les risques d'attentats de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram dans la capitale, sont diversement appréciées dans les rues de N'Djamena.
Et pour nous autres, on est d'accord?
Oui, je suis d'accord, mais c'est pas tous les mendiants parce que il y a des gens qui n'ont pas de revenus, ils ne vivent que de la mendicité. Donc, si on interdit complètement, ça peut avoir un impact social.
L'Afrique des Grands Lacs, plus que jamais mobilisée, Yann Mince, contre la terreur Boko Haram.
Très honnêtement, interdire les mendiants, interdire certaines formes de vêtements islamiques, féminins, etc. Pourquoi pas, mais je crains que l'ex-Boko Haram soit plus inventif que ça. Est-ce qu'on va interdire les motos demain s'ils se servent, de comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois au Nigeria, de motos pour faire des attentats? Est-ce qu'on va interdire les voitures? C'est très très compliqué de lutter contre le terrorisme. J'ai pas pu m'empêcher, en lisant le discours de Barack Obama, de penser à Idriss Déby. Parce que dans le discours de Barack Obama, il y avait, et dans plusieurs discours de sa tournée africaine, cette question de la lutte contre le terrorisme en Afrique, auquel les États-Unis participent, notamment par drones interposés en Somalie. Et il y avait en même temps cette idée qu'il fallait pas, on l'a parlé à l'instant, que les présidents restent s'éternisent au pouvoir. Or, un des meilleurs alliés aujourd'hui est de la France et des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, c'est le Tchad, qui précisément est gouverné par un homme qui est là depuis très 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 longtemps et qui évidemment n'a pas l'intention d'en partir. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois la diplomatie, les intérêts diplomatiques ou sécuritaires peuvent aller à l'encontre des valeurs démocratiques, et c'est des arbitrages très difficiles à faire pour des chefs d'État occidentaux notamment.
Il y a toujours une portée, bien sûr, économique des attentats, et notamment de la terreur menée par Boko Haram. Dans votre dernier numéro d'Alternative Internationale, entre parenthèses, on le trouve dans tous les bons kiosques, vous posez cette question par ce dossier. Boko Haram épuise-t-il, ou vous affirmez même, épuise le Cameroun?
Oui, parce qu'il y a eu, et encore assez récemment, en juillet, de très importants attentats contre le Cameroun et à Maroua notamment, à deux reprises. Et effectivement, à la fois parce qu'il y a un afflux de réfugiés du Nigeria au Cameroun qui pèse sur une région du Nord Cameroun qui était déjà, c'est l'extrême nord, qui était déjà très peu développée, et malheureusement, là encore aussi, en raison du peu d'intérêt du gouvernement pour cette région. Donc l'afflux des réfugiés pèse sur l'économie déjà très tendue, sur les ressources, sur la terre, sur les ressources en eau. D'autres pays d'Afrique ont très bien connu ça. Je pense à la Guinée qui a pendant eu longtemps beaucoup de réfugiés sur son sol venus de Liberia ou de Sierra Leone. Effectivement, quand il y a des conflits, ça pèse sur les pays voisins et ça pèse sur les ressources des pays voisins, avec des risques de tensions foncières, notamment sur la terre. Ça pèse déjà au Cameroun, ça risque de peser encore plus. Et j'ajoute que s'il y a des attentats, ça limite aussi les échanges commerciaux, les routes deviennent moins sûres, en tout cas on craint plus de... les marchés aussi risquent d'être limités, on voit ça dans certains pays, dans certaines régions du Nigeria. Donc effectivement, la guerre menée par les terroristes, quels qu'ils soient, a des impacts économiques, c'est évident.
Osons la question, combien de temps pour vaincre Boko Haram?
Je suis incapable de répondre à cette question-là. Ça va beaucoup dépendre de ce que le nouveau président nigérian Buhari arrive à faire au nord du Nigeria. Arrive à faire sur deux plans. Un premier plan, c'est de mieux développer le nord du Nigeria. Ça, c'est un travail de très longue haleine, mais il faut bien commencer à le faire. C'est un nordiste lui-même, donc il sera probablement plus sensible que l'était Goodluck Jonathan, qui était un sudiste au sort du nord. La deuxième question, qui est plus compliquée, qui est plus à court terme, c'est est-ce qu'il peut arriver à ce que les forces de sécurité nigériane aient sur le terrain, vis-à-vis de la population civile, un comportement suffisamment respectueux pour que les gens se disent pas, après tout, entre Boko Haram et l'armée, il n'y a pas beaucoup de différence. Ça, c'est capital, on le voit dans d'autres pays. Je pense que ça s'est plutôt amélioré ces derniers temps, j'espère que ça continuera.
D'Afrique, ou d'ailleurs, ils fuient leur pays, soit pour échapper au terrorisme, soit pour échapper à la misère, souvent les deux. Ils arrivent en Europe, deux Eldorado très remarqués, l'Allemagne ou l'Angleterre. Pour l'atteindre, ils sont massés à Calais, devant l'entrée du tunnel sous la Manche. Alice Posicki s'y trouve pour nous.
En début de soirée, ils sont une cinquantaine à patienter derrière un supermarché. Un petit groupe prend quelques forces avant le départ, avec du lait et quelques chips. Awal fanfaronne, il a 12 ans et essaye depuis 3 semaines de rejoindre le tunnel sous la Manche.
J'essaie d'aller en Angleterre. Là-bas, c'est bien, les enfants reçoivent une bonne éducation. Je sais que la route est dangereuse, mais je veux essayer.
Le groupe d'une dizaine de migrants se dirige vers l'autoroute, un coup d'œil pour vérifier que la voie est libre, et tous se mettent à courir pour rejoindre l'autre côté.
Ce n'est pas bien pour nous. On risque notre vie, on le sait, mais on essaye.
Kemji est érythréen, il semble connaître le chemin par cœur, mais c'est pourtant la première fois qu'il tente de rejoindre le tunnel. Pour lui, hors de question de passer par le port.
Là-bas, tu as besoin des passeurs, et tu dois les payer. Ils ouvrent les portes des camions et ils mettent les gens dedans. Mais nous, on n'a pas d'argent pour les payer.
La police arrive, sans hésiter, les migrants déboulent sur les voies ferrées. Au loin, ils aperçoivent le terminal du tunnel sous la Manche et sont désormais une centaine à marcher vers la même direction, l'Angleterre.
Un Français à Téhéran maintenant, pas n'importe lequel. Laurent Fabius, premier ministre des Affaires étrangères venu de Paris depuis 17 ans.
Ça n'est évidemment qu'un premier contact officiel, mais je pense que c'était une visite utile, à la fois parce que nous avons parlé de cet accord nucléaire iranien, nous avons parlé de la région, et parce que les Iraniens sont très présents, et nous avons parlé aussi de nos relations bilatérales. Il y a des divergences. Les Iraniens sont présents directement ou indirectement dans plusieurs pays. Ils le sont en Syrie, puisqu'ils soutiennent Bachar el-Assad. Ils le sont en Irak. Ils le sont, d'une certaine manière, au Yémen. Ils le sont aussi au Liban, à travers le Hezbollah. Et c'est vrai que... Bon, on va voir si cet accord nucléaire aboutit à une modification de leur position. Nous, ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est que ils travaillent pour la paix et la stabilité. Pour le moment, ce n'est pas évident, et donc nous avons discuté de ça. Nous allons continuer à discuter, puisque un des résultats de ma visite, c'est que désormais, l'Iran et la France auront au moins chaque année un point politique entre les ministres des Affaires étrangères. Mais nous espérons que l'attitude de l'Iran va aller vers une stabilisation et vers la recherche de la paix. Ils sont aussi, évidemment, très importants au Liban.
Yann Mince, le futur rôle diplomatique de l'Iran dans la région, avec la levée progressive à venir des sanctions économiques et donc une manne financière.
Oui, la manne financière joue un rôle important, parce qu'elle va donner des moyens d'action accrus à Téhéran. Or, l'Iran est présent, comme le disait Laurent Fabius à l'instant, soit directement, soit indirectement, sur plusieurs fronts. Il a cité un peu à la fin le Hezbollah. C'est pourtant la création, si je dirais, le bras armé le plus ancien de l'Iran dans la région, lequel Hezbollah est présent aux côtés des forces de Bachar el-Assad en Syrie. Plus important encore, peut-être, et moins médiatisé, je trouve, c'est le rôle des milices chiites en Irak, contre l'État islamique, lesquels milices chiites sont au premier plan, même souvent avant l'armée, et des milices qui sont armées, financées et encadrées aussi par l'Iran. Au Yémen, je suis un peu plus dubitatif sur l'importance de la présence iranienne, et d'ailleurs, Laurent Fabius a relativisé en disant d'une certaine manière, ce qui était une façon d'euphémiser un peu cette espèce de lien un peu exagéré, à mon sens, qu'on fait entre le mouvement houthiste au Yémen, le mouvement de la famille chiite, on va dire, et puis l'Iran. Cela dit, moi je ne pense pas, en dehors de ces moyens accrus, que les objectifs de Téhéran vont changer beaucoup dans la région. Ce qui peut changer, évidemment, c'est s'il y a une normalisation des relations diplomatiques avec les États-Unis. S'il y a un rétablissement de relations diplomatiques avec les États-Unis, là, effectivement, ce sera une victoire pour Téhéran. Est-ce que ça va changer les objectifs de Téhéran dans la région ? Je ne crois pas. L'Iran a une volonté et, dans une certaine mesure, des moyens et de plus en plus, s'il reçoit de l'argent maintenant, enfin s'il voit de l'argent revenir, d'avoir une politique de puissance régionale. Il le prouve en étant présent au Liban par le Hezbollah, en étant présent en Syrie par son alliance, en étant présent en Irak, en étant un petit peu présent, beaucoup moins à mon sens, au Yémen. Donc je vois pas pourquoi ces objectifs-là changeraient parce qu'ils normalisent. Pourquoi est-ce que Téhéran soutient le régime de Bachar el-Assad? C'est pas du tout parce que les uns sont chiites, les mollahs iraniens au régime, et Bachar el-Assad est alawite. Non, c'est beaucoup plus parce que l'Iran a investi dans le Hezbollah au Liban depuis le début des années 80, que pour avoir une relation avec le Liban, pour pouvoir faire passer des armes, de l'argent, etc., il a besoin de l'intermédiaire syrien. Donc je crois pas que les Iraniens lâcheront Bachar el-Assad, sauf s'ils ont la garantie que derrière, il y aura un régime qui leur permettra de continuer à alimenter le Hezbollah. Moi, je ne crois pas beaucoup que l'accord iranien va changer fondamentalement la diplomatie iranienne dans la région. Ce CUX que ça va mettre en furie, que ça met déjà en furie, ce sont les Saoudiens, parce qu'ils ont l'impression qu'effectivement, leur relation privilégiée avec les États-Unis va s'effacer et que les Iraniens vont devenir très fréquentables maintenant à Washington.
Une semaine d'actualité.
La politique en France. Les ministres sont désormais en vacances. Cette semaine, c'était le dernier Conseil des ministres, avant le prochain, bien sûr. Quelques semaines courtes de vacances, avec beaucoup des dossiers sous le bras. Dans l'opposition, c'est aussi repos pour tout le monde. Mais prenons à l'extrême droite la famille Le Pen. Jean-Marie, le père fondateur, et sa fille Marine, à la tête du parti, ne partiront pas en vacances ensemble. Le patriarche obtient de la justice l'annulation du congrès sur papier, ce qui veut dire des décisions votées par courrier sans réunir tout le monde dans une même salle. Ce congrès devait lui enlever son poste de vice-président du FN. Alors au micro de Léa Ticklette, il est heureux, surtout dans sa détestation du bras droit de sa fille, Florian Philippot.
C'est évidemment, on peut le dire, une défaite personnelle de Monsieur Philippot, que j'invite à regagner le ministère de l'Intérieur, d'où il vient, et un succès pour tous les patriotes, pour tous les militants, tous les adhérents et les électeurs du Front National qui voient, un petit peu désolé, l'orientation qui a été donnée à notre mouvement depuis quelques mois, disons.
Une autre famille, celle du football. Hélas, ce n'est plus du sport. L'enjeu dépasse le terrain. Sepp Blatter sur le départ. Michel Platini part en campagne, c'est officiel, pour le remplacer de Corée du Sud. Chung Mong-ju, l'héritier milliardaire de l'empire industriel Hyundai, voudrait le trône. Il traite Platini de produit du système FIFA. Du Liberia, le président de la Fédération Nationale du Football fait la même chose en rappelant les 8 ans de Platini comme vice-président de la FIFA aux côtés de Blatter. Alors, la famille française se mobilise, à commencer par Michel Hidalgo, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Il dirigeait alors Michel Platini. N'en doute pas, Platini est le nettoyeur dont la FIFA a besoin.
Si on lui donne ce poste-là, il sera obligé de faire le ménage. Parce que, comme il y a eu en Europe, pour le monde, c'est pareil. Il y a des choses qui marchent et il y a des choses qui ne marchent pas. Et Michel Platini, qui a été un grand joueur, mais qui est aussi un grand humaniste, qui est très intelligent, beaucoup plus qu'on ne pense, comme il était intelligent sur le terrain, il va faire tout ce que les autres n'ont pas fait. Donc il va apporter quelque chose, il va apporter ce qu'il aime. Lui, la première chose, c'est le football.
Michel Hidalgo sur Radio France n'est plus tout à fait du football. Le pouvoir de la FIFA donc va bien plus loin. Le pouvoir du sport tout court. Pékin a été choisi cette semaine par le Comité international olympique comme ville organisatrice des Jeux olympiques d'hiver de 2022. Ce qui veut dire que la capitale chinoise fait son apparition dans les annales olympiques comme étant la première ville à s'être vue attribuer à la fois des Jeux d'été, c'était en 2008, et donc ces Jeux d'hiver dans 6 ans. Yann Mince, le pouvoir diplomatique à travers le sport. Pékin, c'est ce que ça veut dire.
Visiblement, ça marche. Je ne sais pas quelle est la recette, recette chinoise. J'espère que c'est une recette qui a été obtenue par des moyens propres. Malheureusement, j'ai pas très connaisseur de sport, mais j'ai appris un peu à me méfier des décisions d'un certain nombre de comités internationaux, que ce soit dans le football, dans d'autres disciplines, qui ont l'air d'être parfois, dont certains membres ont l'air d'être sensibles à des cadeaux, à des avances, à des facilités, etc. J'espère que c'est pas le cas pour la Chine. D'un autre côté, bon, la Chine, c'est une puissance évidemment très importante au 21e siècle. Elle a sûrement les moyens de présenter un très beau dossier technique pour les JO d'hiver. Peut-être ça aurait été bien de faire circuler un peu plus le ballon des JO d'hiver, disons.
Pour toute autre chose, repartons en Afrique. Au Libéria, elle a ravagé l'économie, fait fuir les investisseurs et elle a désorganisé le système de santé. C'est une maladie. C'est bien sûr, vous l'avez tous reconnu, Ebola. Les derniers malades sont là-bas officiellement guéris au Libéria. En Sierra Leone, plus que 3 cas en cours de traitement. Le président Koroma, avec l'aide financière des donateurs ayant promis à New York plus de 3 milliards de dollars de dons pour les 3 pays les plus touchés, tente de relancer son économie. En Guinée, la lutte là-bas se poursuit.
Tout le monde est en danger, les jeunes et les anciens. Il faut agir pour nos familles.
Les artistes se mobilisent pour sensibiliser la population. Mokhtar Ba était dans la salle de concert à Conakry.
C'est pour aider à lutter contre Ebola que des stars de la musique africaine se sont réunis pour enregistrer la chanson « Africa Stop Ebola ». Des génies en herbe guinéens qui ont aussi interprété la même chanson de sensibilisation à Ebola ont compété la nuit dernière dans une finale inédite au Palais du Peuple à Conakry. Étaient présents dans la salle des célébrités de la musique africaine, Tiken Diafa Koli, l'Ivoirien, et le Guinéen Mori Kanté, qui ont jugé le spectacle. Tiken Diafa Koli.
Magnifique soirée, voilà, les artistes sont inspirés, les musiciens aussi, le public est là. Je pense que voilà, on est en train d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire sensibiliser les populations contre Ebola. Nous venons ici aussi pour féliciter le peuple guinéen, le peuple du Libéria, le peuple du Sierra Leone, qui ont su quand même se mobiliser pour que cette maladie ralentisse. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que ensemble, on puisse faire disparaître cette maladie.
Mori Kanté apprécie.
Mon appréciation est claire et nette. Et là, je crois qu'il y a plus de conscience. Tout le monde est au courant maintenant de la maladie et que bientôt elle s'en ira. Nous souhaitons l'éradiquer complètement et plus jamais ça.
Dans ce spectacle haut en couleur et après délibération, c'est mademoiselle Manamba Kanté, la fille de Mori Kanté, qui a remporté le premier prix d'un montant de 4000 euros.
Conakry, ville où dans certains quartiers dévastés par les pluies torrentielles, la population fait sécher ses affaires au premier rayon de soleil.
Sur la terre, en Afrique, en Afrique, en Afrique. En Afrique, en Afrique, en Afrique, en Afrique.
L'Afrique, continent en première page de cette étude démographique de l'ONU. 11 milliards. Nous serons 11 milliards sur Terre à la fin du siècle, Carlotta Mortea.
Ça va vite, très vite. Dans seulement 7 ans, les Indiens seront déjà plus nombreux que les Chinois. Mais la croissance démographique mondiale sera africaine. D'ici 35 ans, la population du Nigeria devrait dépasser celle des États-Unis. En frôlant les 400 millions d'habitants, le Nigeria sera alors la troisième nation la plus peuplée du monde. Mais c'est bien tout le continent qui tire la locomotive. Angola, Burundi, Mali, Niger, Somalie, Ouganda ou Zambie, leur population pourrait se multiplier par 5 en quelques générations. Pourtant, et ça semble un paradoxe, la fécondité recule sur le continent. Aujourd'hui, les Africaines font plus que 4 enfants en moyenne. Ce sera 3 en 2050, puis 2 seulement à la fin du siècle. Alors, comment expliquer cette croissance démographique spectaculaire? Eh bien, parce que les Africains vivent mieux et plus longtemps. L'ONU souligne les progrès enregistrés dans le domaine médical, notamment dans la lutte contre le sida et contre la mortalité infantile. Résultat, des pas de géant en termes d'espérance de vie, les nouveau-nés d'aujourd'hui vivront 6 ans de plus que leurs grands frères de 10 ans.
Yann Mince, des populations plus nombreuses dans les grands pays africains. Une bonne chose pour le développement ou un poids potentiel ?
Ça dépend de leur âge. Barack Obama l'a dit dans son discours, il a dit une population jeune, c'est un atout. Et ça a été, par exemple, un des atouts, clairement, de la Chine dans sa croissance économique spectaculaire de ces dernières années. Mais la démographie, c'est très difficile à manœuvrer. C'est un paquebot. Ça prend longtemps d'avoir des résultats. L'Afrique a aujourd'hui une population jeune et une population jeune qui aura des enfants. Donc les cohortes, comme disent les démographes qui viennent, seront encore des cohortes très nombreuses. Ce qui fait, en général, permet de favoriser la transition démographique, c'est l'éducation des filles. Donc plus les filles africaines seront éduquées, plus elles auront seront en capacité de contrôler leur fécondité, et plus elles auront envie d'avoir des familles réduites pour pouvoir éduquer leurs enfants convenablement. Et aussi, l'un des autres éléments, qui malheureusement est très peu présent en Afrique, ce sont les systèmes de retraite. Parce qu'effectivement, des enfants, c'est l'assurance que quand vous serez vieux, quelqu'un vous prendra en charge. S'il n'y a pas de système de retraite, spontanément, on compte sur les enfants, effectivement, une descendance nombreuses, c'est une chance, une probabilité d'avoir plus de gens qui s'occupent de vous, qui peuvent vous prendre en charge quand vous serez âgé. Donc, tout ça, c'est des phénomènes très très longs à mettre en place. J'espère que l'Afrique va avancer en cette direction. Sur l'éducation des filles, ça progresse. Sur les systèmes de retraite, j'ai l'impression qu'on est encore assez loin, sauf dans des pays comme l'Afrique du Sud, qui ont un niveau de développement un peu plus élevé, franchement plus élevé que la moyenne du continent.
Merci Yann Mince, rédacteur en chef d'Alternative.
Merci à vous.
International. Merci aussi à Vanessa Rovinsky, efficace réalisatrice de cette émission. Une semaine d'actualité reviendra bien sûr samedi prochain. À samedi. Et merci d'écouter RFI, votre radio du monde.